Et oui, la météo avait gâché la fête. C'était le 29 mai dernier, en raison du mauvais temps, la grande parade des avions commerciaux d'Airbus au-dessus de Toulouse avait dû être annulée. Là, c'est bientôt le salon du Bourget, une nouvelle occasion de fêter. Le constructeur toulousain, vous l'avez dit, il célèbre son 50e anniversaire, 50 ans d'histoire, quelques nuages. Que l'on regarde avec vous, Jean-Marc Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, grand connaisseur de l'histoire de l'aéronautique, hein, puisque vous avez, c'est votre spécialité, vous avez commis plusieurs ouvrages. Le dernier concerne l'année 69, Concorde, premier vol, c'est aux éditions cette année-là. Cette année-là, Jean-Marc Olivier, il s'en est passé des choses, hein, puisque c'est cette année qu'a vu le démarrage d'Airbus, je crois, année 69, année aéronautique.
Oui, aéronautique, spatiale aussi, bien sûr, tout le monde se rappelle que c'est l'année des premiers pas sur la Lune. Donc c'est une année célébrée, mais en même temps, il y a plusieurs anniversaires d'Airbus. Hein. Donc 1969, c'est le premier accord qui lance le programme de l'A300B, dérivé de l'A300, donc un moyen courrier, qui doit réussir à ramener l'aéronautique européenne sur le devant de la scène. Mais en fait, le groupe Airbus naît vraiment seulement l'année suivante avec son GIE en 1970. Donc il faudra refaire un anniversaire.
Ah bah très bien, on prend date.
Ah, oui.
On prendra date. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de la naissance d'Airbus? On est à quelques semaines des élections européennes. Je crois qu'on peut dire que c'est une belle victoire, une première victoire de l'Europe.
Oui, oui, oui. C'est une victoire qui s'est dessinée quand même lentement, parce que il y avait en même temps le programme Concorde, hein, le 2 mars 1969, c'est le vol du Concorde, bien sûr, et cette construction, elle n'est pas évidente, parce qu'au départ, c'est un projet à trois, français, britannique et allemand, mais les Français et les Britanniques sont majoritaires dans ce projet, on prévoit des moteurs Rolls-Royce, mais les choses se compliquent, Concorde connaît ensuite des difficultés, donc les Britanniques deviennent hésitants, et finalement c'est un accord franco-allemand qui est signé en 1970. Et c'est le retour des Allemands dans l'aéronautique et des groupes qui se sont en quelque sorte reconstitués dans une alliance, Dornier, Messerschmitt, etc. Et donc on se retrouve avec cet accord franco-allemand. Bon, ensuite les Espagnols arrivent avec Cassa et... finalement, les Britanniques reviennent aussi, mais plus tard.
Et l'idée, dès le départ, hein, ça sera de faire le poids face aux géants américains, qui est déjà Boeing.
Oui, oui, oui. Alors, c'est un programme qui passe un peu inaperçu, Airbus, hein, parce que ce dont on parle à cette époque-là, c'est Concorde. Ouais. Parce que Concorde, c'est le vol supersonique transatlantique. Alors, c'est un avion d'ingénieur, un avion presque de chercheur, Concorde. Et parallèlement, donc, le programme Airbus se met en place. Mais là, c'est plutôt un avion pour les clients, pour les compagnies. Et donc, un avion au fuselage large, dans lequel on peut rentrer aussi des conteneurs.
C'est l'A300, le premier avion?
Comment vous dites?
C'est l'A300, le premier avion, je crois. Hein.
Alors, l'A300, c'est le projet, mais le premier avion produit qui est un peu moins grand... c'est l'A300B, celui qui est exposé au musée Aeroscopia. Oui. Donc, parce qu'au départ, c'était 300 places, mais finalement, on est redescendu à 250 places, donc on l'a appelé A300B.
Alors, dans les années 70, le décollage ne sera pas immédiat. Je crois que il y aura des moments difficiles. Hein.
Oui, il y a des moments difficiles parce que forcément, il faut réussir à obtenir des commandes. Hein. Donc, l'Airbus A300B effectue son premier vol en 1972. C'est un succès technique. Il entre en service et certifié en 1974, mais pendant pas mal de temps, il n'y a pas vraiment de commande. Hein. Et faut attendre finalement la grande commande, c'est 1978, la commande américaine, Eastern Airlines, hein, Frank Borman, qui s'est fait prêter gratuitement des avions Airbus A300B. Et il en est très content parce qu'ils sont faciles d'entretien, économes en kérosène. Donc il passe commande et comme il est très connu, eh bien, les instances américaines diverses et les concurrents américains n'arrivent pas à empêcher cette commande qui lance le succès d'Airbus.
Et oui, c'est la belle ironie de l'histoire tout de même que ce soit des USA que vienne le salut d'Airbus.
Oui, parce que c'est là que se jouent les grosses commandes à cette époque. Hein. Mmh. Même si l'Europe a connu les 30 Glorieuses, une reconstruction rapide, les grands grandes compagnies aériennes sont américaines, et si on n'est pas sur le marché américain, ça peut pas être rentable. Et on l'a vérifié avec Concorde, hein, parce que Concorde, c'est un magnifique succès technique, mais c'est un désastre commercial.
Mais alors, vous parlez du Concorde, mais le Concorde n'est pas exactement Airbus en réalité. Hein.
C'est un autre projet, parallèle, un autre accord, qui n'aboutit pas commercialement, mais seulement techniquement, parce que il est victime de la concurrence du Boeing 747. Concorde, il n'y a eu que 14 exemplaires vendus, hein, 20 produits, 14 vendus. Mmh. Le Boeing 747, c'est plus de 1500 exemplaires aujourd'hui vendus. Donc, dès 1976, quand le Concorde entre en service, il y a déjà 300 Boeing 747 commandés. Donc, on a conscience en Europe qu'il faut réussir commercialement ou mourir aéronautiquement, en quelque sorte.
Alors, il y aura la traversée du désert. On reprend, je balaye avec vous les grandes dates. Hein, la traversée du désert des années 90 qui va avoir pour issue le projet EADS. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors, le projet EADS, c'est en quelque sorte un aboutissement le 10 juillet 2000. Hein, donc, European Aeronautics Defense and Space Company. C'est la fusion, en fait, de l'allemand Daimler Chrysler Aerospace avec le français Aérospatial Matra, qui lui-même était issu d'une fusion Nord et Sud Aviation, et donc aussi de CASA, l'espagnol Construcciones Aeronáuticas. Donc c'est un grand groupe européen, puissant, et qui est capable de lancer des nouveaux projets, puisqu'il y a toute une série de nouveaux projets qui apparaissent. Bon, il y a eu la 310, long courrier, en 1982, le premier vol, mais surtout la 320, en 1987, qui marque la sortie des difficultés, puisque ensuite la 320, c'est un succès commercial assez incroyable. Aujourd'hui, il y a environ 15 000 exemplaires commandés.
Incroyable.
Et livrés, c'est le deuxième avion le plus vendu au monde, après le B737.
Alors, après EADS, Airbus est de nouveau appelé Airbus. Hein. Guillaume Faury, là, à l'occasion des festivités anniversaires, a dit « L'histoire d'Airbus est une histoire d'ambition et de progrès, emblématique de l'intégration européenne, avec à son actif beaucoup de premières. » Ça, c'est les mots de Guillaume Faury. Beaucoup de premières, mais beaucoup de changements de nom, beaucoup de flops, de succès. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie d'Airbus.
Non. Alors aujourd'hui, c'est stabilisé. Il y a Airbus Group, donc c'est clair pour tout le monde, mais qui est lui-même divisé en Airbus Commercial Aircraft, c'est-à-dire les avions civils, en quelque sorte, Airbus Hélicoptère et Airbus Defense and Space. Donc, même quand on va sur Internet, on s'y perd un peu.
Mais, on s'y perd un peu, j'avoue. Hein. J'avoue qu'en préparant, je me suis un peu perdu. Ça a toujours été à Toulouse ?
Oui, puisque dès le départ, on prévoit que la conception soit toulousaine, puisqu'on avait promis les réacteurs aux Anglais au tout départ. Hein. Ensuite, les Allemands arrivent, mais c'est un peu des outsiders. Au départ, ils n'étaient pas prévus comme un partenaire à part égale. C'était seulement 25% et 37,5% pour les Anglais et 37,5% pour les Français. Donc, Toulouse a pu jouer la carte totale du centre de gravité d'Airbus dès le départ, et ça s'est confirmé. Et Tom Enders a réussi même à faire venir le siège social.
L'ancien patron, hein, le prédécesseur. Alors, on parle anniversaire, on va faire un peu de prospective et voir un peu l'avenir d'Airbus et puis peut-être l'avion du futur. On a appris en mars dernier que le carnet de commandes se remplissait notamment via la Chine, hein, 300 Airbus commandés pour 30 milliards d'euros. On a aussi appris en début de semaine la fusion de deux géants américains de l'armement, de l'aéronautique. Est-ce que ça pourrait donner du fil à retordre à Airbus ?
Alors, à court terme, non, parce que Airbus croule sous les commandes. Le problème d'Airbus aujourd'hui, c'est surtout de produire, en fait. Hein. Et même les difficultés du Boeing 737 ne profitent pas vraiment à Airbus, puisque Airbus est au maximum de ce qu'il peut produire. On va produire à peine plus d'avions à Tianjin, dans la chaîne d'assemblage des A320.
Ouais.
On est au maximum et on veut pas prendre de risques. Donc, à court terme, il n'y a pas de difficulté. En plus, c'est une industrie qui se projette à 10 ans au moins, l'aéronautique. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, il y a de nouveaux concurrents qui commencent à émerger, mais avec difficulté.
Hein. Lesquels ?
Les Chinois ou les Russes. Bakomak, le Chinois, qui est en théorie un des plus menaçants, mais qui actuellement a quand même du mal à finir de mettre au point son avion et qui... quand il sera vraiment mis en service, sera déjà presque un petit peu dépassé. C'est une industrie très, très difficile. Hein. Il y a des accumulations de savoir qui font que c'est compliqué pour arriver au premier plan.
Un dernier mot, Jean-Marc, Olivier, en ce moment, il y a une mode qu'on voit de plus en plus se développer, c'est la mode de l'anti-avion. Est-ce que là aussi, ça pourrait amener Airbus à revoir sa stratégie ?
Alors là aussi, à court terme, non, hein, puisque ça n'a pas pour le moment un très gros impact. C'est apparu aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années, en Scandinavie, le mouvement Stay on the Ground. Bon, c'est un mouvement qui vise en plus surtout les avions quand même courts et moyens courriers, les vols courts et moyens courriers, qui peuvent être remplacés par le train. Mais on imagine difficilement de remplacer les vols
longs
transocéaniques. Donc là aussi, et puis les constructeurs sont capables de s'adapter, de réduire la consommation, etc. Donc il y a aussi cette capacité technique extraordinaire chez Airbus. Ils l'ont prouvé avec la 350 hein, qui est venu rattraper le retard initial sur le Boeing 787. Donc c'est
encore de beaux jours.
Peut-être qu'Airbus va jouer une carte importante.
Eh bien, on souhaite un bel anniversaire à l'avionneur toulousain. Un grand merci Jean-Marc Olivier. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès à Toulouse. J'annonce cette conférence. Elle aura lieu dans quelques temps, du 18 au 20 mars prochain. On aura l'occasion d'y revenir. Naissance et développement d'Airbus à l'université du temps libre. C'est vous qui l'organisez. On en reparlera. Un grand merci à vous.